C'est quoi ce petit sourire?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top!
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
C'est l'histoire d'une double mort, pour ne pas dire une triple mort, qui mérite qu'on s'y attarde. En effet, ce drame retentissant de la fin du règne de Louis XIV est entouré de plusieurs scandales, mystères, de quelques polémiques. Il prive le vieux roi de presque toute sa descendance et ça mérite bien sûr qu'on s'y attarde. On est donc au tout début de l'année 1712. 1712, ça veut dire que Louis XIV a 73 ans déjà. C'est un monsieur âgé, bien sûr, fatigué, qui a subi bien des maladies, bien des interventions chirurgicales. Son royaume est aussi fatigué que lui, car la France, vous le savez, est empêtrée dans la guerre de succession d'Espagne, interminable conflit où les armées françaises ont essuyé beaucoup d'échecs. Alors on parle de paix, il y a ce qu'on appelle les pourparlers de Gertruydenberg, mais cette paix est encore assez loin d'être signée et le vieux roi s'épuise. Il tient bon néanmoins, il porte beau. Il a un vrai motif de réjouissance, ce sont ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Alors c'est vrai que son seul fils légitime, Monseigneur, le grand dauphin, est mort il y a peu de temps, mais le nouveau dauphin, c'est-à-dire son premier petit-fils, le duc de Bourgogne, est un prince de 29 ans qui a tout l'avenir devant lui. Vous l'imaginez, le duc de Bourgogne, où il n'est pas très séduisant, même si son regard est assez doux, il a les cheveux châtains, mais ils disparaissent, ses cheveux, sous la grande perruque de cour, bien entendu, est un petit peu bossu, disons-le. C'est un jeune homme dévot, assez ambitieux en vérité, et très actif, pas très drôle. Il a épousé une princesse qui arrivait de Turin et qui, elle, en revanche, est absolument charmante. Elle est le charme fait femme, un charisme extraordinaire, beaucoup de sensibilité. C'est Marie-Adélaïde de Savoie. Saint-Simon nous la décrit comme régulièrement laide, c'est toujours très gentil avec lui, avec des joues pendantes et un front avancé. Oui, d'accord, mais quelle vivacité dans le regard, quel feu, quelle flamme. Et puis beaucoup de charme, je vous le dis, cette jeune femme de 26 ans a beaucoup plu au vieux roi, qui, lorsqu'elle est arrivée, l'a prise un peu pour sa propre petite fille. Elle avait 10 ans, vous imaginez. Et le vieux roi était en ménage, mais un ménage morganatique, c'est-à-dire secret, avec Madame de Maintenon. Et l'on peut dire que ce couple vieillissant a littéralement adopté la petite fille comme si c'était leur petite fille. Autre motif de satisfaction, les époux Bourgogne ont des enfants, déjà deux fils, ça veut dire que la succession est assurée. Bref, en cette fin de règne, un peu crépusculaire, on peut dire de ces jeunes gens qu'ils donnent des couleurs à la dynastie. Dans la famille royale, le début de 1712 a été marqué par un petit drame qui n'a pas grand-chose à voir avec ce couple. Il faut vous dire que le petit frère du duc de Bourgogne, le troisième petit-fils de Louis XIV, je vous rappelle que le deuxième est roi d'Espagne à l'époque, le duc de Berry, oh, qui n'est pas un foudre de guerre, Berry est à l'origine d'un accident de chasse. Alors qu'il se promenait dans la campagne, son fusil à la main, une cartouche a été tirée et un des petits plombs de la cartouche a ripé sur la glace est venu finir sa course dans l'œil de son cousin Condé. De quoi sidérer les membres de la famille royale. Mais tout ça n'est pas grand-chose à côté de ce qui attend la famille. Là, ce sont les grandes émotions. Ça commence le 5 février. La duchesse de Bourgogne, qui était en petite forme, hein, ça fait longtemps qu'elle souffrait de maux de dents. La duchesse de Bourgogne se sent de moins en moins bien. Je cite Elisabeth Alourgaud, qui vient de publier chez Perrin une toute nouvelle biographie de la princesse. Je cite. Dans la nuit du 5 au 6 février, la fièvre et les vomissements apparaissent. Le lendemain, la jeune dauphine veut encore animer le jeu dans le grand appartement. Comme d'habitude, les reproches pleuvent sur sa tête. Ses goûts italiens et sa bonne cuisine sont en cause. Elle aurait mangé des ragoûts à l'italienne qui lui étaient demeurés dans l'estomac, ou encore un gâteau préparé de ses mains. Bon, ça c'est le genre d'explication qu'on donne quand on ne se pose pas vraiment de questions. C'est peut-être un peu trop simple. Cet accroc de santé a priori banal en annonce d'autres en vérité, et d'autres qui vont être bien plus graves.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bientôt, le mal de la princesse est mis en relation avec une terrible épidémie de rougeole qui frappe l'Île-de-France à ce moment-là. La logique des symptômes est assez difficile à suivre. Il y a une douleur particulière qui la torture notamment entre l'oreille et le haut de la mâchoire. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Madame de Maintenon, dans sa correspondance, laisse passer ses émotions. Elle suit littéralement heure par heure les convulsions, les légers mieux, les accès de fièvre de cette jeune princesse qu'elle aime tant, qu'elle aime maternellement. Le 8 février, l'épouse du roi, d'habitude tellement alerte qui ne se laisse pas du tout aller à ses états d'âme, écrit à une proche « J'étais si abattue chez Madame la Dauphine que je n'ai pu vous dire un mot et si sourde que je n'ai rien entendu de tout ce que vous m'avez dit. Elle se veut pourtant rassurante. Modérez vos inquiétudes, car après tout, la rougeole n'approche pas de la petite vérole. Non, ça pourrait être une maladie pas si grave que ça, oui, seulement. Voilà qu'on apprend que le duc de Bourgogne, à son tour, est pris d'un mal subi. Tout ça commence à faire vraiment peur, et d'autant plus que son épouse va vraiment de plus en plus mal. Elle est à l'agonie, la duchesse de Bourgogne. Je cite Elisabeth Alourgaud de nouveau. Les 7 médecins rassemblés au chevet de Marie-Adélaïde se déclarent impuissants et abandonnent la partie. On essaie une poudre anglaise et d'autres remèdes empiriques apportés par des charlatans mêlés à la foule qui se presse dans les appartements de la Dauphine. On trouve encore le temps de faire avaler à Marie-Adélaïde un médicament dont nous ignorons la composition et qui n'a d'autre effet que de lui arracher un cri « Ah, que cela est amer !» Le 11 février, lors d'un moment de lucidité, on invite Marie-Adélaïde à se confesser. Le moment de lucidité n'était pas dans l'entourage, mais chez la princesse, bien sûr. Il était temps, elle est en train de mourir, elle va mourir. Le lendemain, suivi dans le trépas, une semaine plus tard, par son mari. Et ce n'est pas tout, le 8 mars, leur fils aîné, le nouveau dauphin, s'éteint à son tour. Il y avait, autour du vieux roi, une charmante petite famille. Et voilà que ne reste qu'un fils de 2 ans qui lui-même est malade et qui n'en réchappera que grâce à sa gouvernante qui aura la bonne idée d'arracher l'enfant aux médecins de la cour à leur saignée et à tout l'attirail de leur ignorance. Une question est alors sur toutes les lèvres. Et si cette suite de décès était moins naturelle qu'il n'y paraît ?
Yeah.
le merveilleux, l'incomparable « Dies Irae » de Jean-Baptiste Lully, le chœur de chambre de Namur et et l'ensemble Millennium Orchestra était sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón.
Vous écoutez Radio Classique.
En général, dès qu'il s'agit de rapporter les méchants bruits, les rumeurs et tous les ragots de la cour, vous pouvez compter sur deux témoins, n'est-ce pas, que vous connaissez par cœur, dont nous abusons à ce micro, le duc de Saint-Simon et Madame Palatine, c'est-à-dire la belle-sœur du roi. Quand ils entendent, quand ils commencent à se poser des questions sur tous ces décès de l'hiver 1712, on les voit s'attarder sur les soupçons qui accablent un prince dont ils sont proches, car il s'agit de Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui est donc le fils de la Palatine et qui est le protecteur direct de Saint-Simon. Ah, ça c'est très embêtant. Et c'est un prince très brillant, très doué, dont la réputation, disons-le, est assez trouble, et dont l'ambition, qui sans cesse a été bridée par son oncle Louis XIV, dont l'ambition est très connue. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui est visé ? Bien, il est possible d'argumenter que la mort du duc de Bourgogne le rapproche de la couronne. Ça, c'est absolument incontestable. En tout cas, le rapproche du pouvoir. Parce que si le petit frère du prince défunt, le peu dégourdi duc de Berry, celui qui a envoyé un plomb dans l'œil du prince de Condé, là, tout à l'heure, si lui devenait régent à la mort de Louis XIV, il est probable que Philippe d'Orléans, dont il est le gendre, par ailleurs, n'aurait pas la main très éloignée du gouvernail, vous voyez. Il serait même sans doute particulièrement bien placé. Puis, pas mal de courtisans se souviennent de la passion du duc d'Orléans pour l'alchimie et d'une façon plus générale pour tous les savoirs ésotériques. Il est passionné par tout ça. Et on se dit qu'il maîtrise particulièrement bien l'art des poisons. Madame Palatine, sa mère donc, raconte qu'on découvre vite sur les murs du palais royal des mots accusateurs. Voici où on trouve le plus fin poison. Un jeu de mots sur le fait que lui-même pourrait en être un poison. Quant à Saint-Simon, il évoque des scènes très cruelles, en prenant fait et cause pour le prince, bien entendu. Je cite le petit duc. Dès le 17 février, que monsieur le duc d'Orléans fut avec madame donner l'eau bénite à la dauphine, la foule du peuple dit tout haut toutes sortes de sottises contre lui, le long de leur passage, que lui et madame entendirent très distinctement, sans oser le montrer, mais dans la peine, l'embarras et l'indignation qui se peut imaginer. Il y eut même lieu de craindre pis lorsque le 21 février, il alla seul donner l'eau bénite aux défunts. Aussi essuya-t-il sur son passage les insultes les plus atroces d'un peuple qui ne se contenait pas, qui le montrait du doigt avec les épithètes les plus grossières. D'après le duc de Saint-Simon, deux personnalités seraient à la manœuvre pour persuader le roi et le public de la responsabilité dans ce double, dans ce triple décès du duc d'Orléans en personne. D'abord, celui qui est le rival direct à la cour du duc d'Orléans, c'est-à-dire l'aîné des bâtards de Louis XIV, le fils de Madame de Montespan, le petit chouchou de Madame de Maintenon, le duc du Maine. Évidemment, le duc du Maine pourrait avoir intérêt à discréditer le duc d'Orléans. Voilà ce que nous dit Saint-Simon, qui va loin dans son récit. « Il échappa à Madame de Maintenon qu'on savait bien d'où venait le coup, et de nommer monsieur le duc d'Orléans, le roi y applaudit avec horreur comme n'en doutant pas. » Dit comme ça, au détour d'une phrase de Saint-Simon, ça pourrait presque paraître n'être qu'un bruit de cour, mais ça veut quand même dire que Louis XIV est convaincu que son propre neveu a envoyé ad patres son petit-fils et son épouse, et son arrière-petit-fils. Les médecins qui ont participé à l'autopsie du duc et de la duchesse de Bourgogne, on dit duc et duchesse de Bourgogne, ce sont leurs titres de courtoisie, c'est un prince et une princesse du sang dont on parle, vous l'avez bien compris, tous ces médecins, tout ce collège de la faculté reste divisé sur le vrai diagnostic. Par exemple, Fagon, qui est protégé par Madame de Maintenon, aurait évoqué un assassinat impliquant du poison. Vous voyez quand même que, et c'est pas n'importe qui Fagon, il est au plus proche du trône. Le chirurgien maréchal aurait plutôt plaidé, lui, pour des causes naturelles. Qu'importe, il y a ce tapage malveillant, qui emporte tout sur son passage à la manière d'un torrent de montagne. Alexandre Dupilet, dont la biographie du duc d'Orléans vient de sortir dans son édition de poche, nous dit « Philippe d'Orléans se trouvait mis à l'écart comme un pestiféré. Les courtisans s'écartaient de son passage comme on le fait de celui d'un dangereux assassin. » Et évidemment, pour le duc d'Orléans, c'est très difficile. Il est affecté par ce qui se passe. Il faut montrer du cran, bien entendu. Alors, il se présente devant Louis XIV et il lui fait carrément cette suggestion assez incroyable. Il offre d'aller de lui-même à la Bastille pour se mettre à la disposition des enquêteurs, tout comme un chimiste que la rumeur dit être son complice. Vous imaginez bien que Louis XIV n'acceptera pas. Il n'est pas question d'aller mettre sur la sellette un petit-fils de France. Le plus important, c'est qu'il n'y a de toute façon aucune preuve contre le prince. En réalité, malgré les doutes que soulève Saint-Simon, il paraît clair que le duc de Bourgogne a bien été victime de cette épidémie de rougeole. Pour ce qui est de sa femme, Benedetta Lurgo évoque la possibilité d'une septicémie bactérienne d'origine dentaire. C'est assez inouï parce qu'il y a une concomitance absolue dans la mort des deux époux. Or, il y aurait des causes, vous voyez, bien distinctes. Là, dans le cas de la duchesse de Bourgogne, une cause endogène. Il semble que Louis XIV n'ait pas accordé un grand crédit au bruit malveillant en vérité. Quant à l'implication de Madame de Maintenon dans leur diffusion, elle n'est pas invraisemblable, mais faut faire toujours attention aux attaques qui portent contre elle, surtout lorsqu'elles viennent des plumes de Saint-Simon et de la princesse Palatine, parce qu'ils la détestent l'un comme l'autre. Cette histoire de poison ne doit pas faire oublier une double affaire parallèle liée à la mort des époux Bourgogne, une affaire plus importante mais qui s'est déroulée plus discrètement, j'y viens. Il s'agit de ce qui a, comment dirais-je, de l'aura de mystère et de suspicion qui a entouré la mort de ce prince et de cette princesse, car ils semblent bien avoir laissé derrière eux des documents gênants qui ont énormément fait parler à mi-voix, fait parler à l'abri de la main ou de l'éventail après leur mort. Plusieurs auteurs sont allés jusqu'à en tirer une conclusion. Le duc et la duchesse de Bourgogne auraient bien pu avoir été impliqués dans la trahison du vieux roi. L'argot d'une sonate pour violon de Louis Francoeur par Théotime Langlois de Swart et Justin Taylor.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Intéressons-nous d'abord à la duchesse de Bourgogne. Après sa mort, Madame de Maintenon aurait appris à son sujet quelque chose de grave. Le 16 avril, l'épouse du roi écrit à son neveu par alliance des mots qui sont assez étonnants. « Je pleurerai toute ma vie, Madame la Dauphine, mais j'apprends tous les jours des choses qui me font croire qu'elle m'aurait donné de grands déplaisirs. Dieu l'a prise par miséricorde. » Vous vous rendez compte la violence de cette expression ? Simone Bernière a écrit dans « Les Reines », toujours un plaisir de citer Simone Bertière. Elle a écrit dans Les Reines de France au temps des Bourbons toute une étude sur le sujet. Elle propose une synthèse des théories qui à l'époque ont couru et je vous propose de les reprendre avec elle. D'abord, il pourrait s'agir d'une affaire de cœur, mais il est peu imaginable que l'histoire ait pu être ignorée de tout le monde et a fortiori qu'elle ait pu être très sérieuse. Comme l'a écrit Madame de Caylus dans ses souvenirs, la princesse était trop gardée. Il était très difficile pour elle d'entretenir des amourettes. Deuxièmement, on pourrait penser à un problème de dette cachée. C'est vrai que la princesse était entichée de paris, de mise, elle misait gros. Mais si c'était juste une histoire de jeu, ça, On voit mal comment Madame de Maintenon aurait pris les choses aussi mal. Alors, il y a deux autres théories plus embêtantes. La première a eu un certain succès sous des plumes qui aiment les complots, si je puis dire. Comme Louis XIV était en conflit ouvert avec le père de Marie-Adélaïde, celle-ci aurait pu entretenir une correspondance directe avec Turin. Elle aurait pu être en quelque sorte une espionne. C'est pas très crédible, en vérité. La princesse était affectée par la guerre, c'est vrai, mais tout montre qu'elle tenait parfaitement à ses devoirs. Elle était devenue très française. Bon, cette théorie a été un peu montée en épingle, elle paraît douteuse. Simone Berthier, elle, s'attarde sur la dernière hypothèse, plus intime. Pourquoi n'y aurait-il pas eu, dans la cassette de la duchesse de Bourgogne, des plans pour l'après-Maintenon ? Des plans laissant entrevoir que celle-ci ne prodiguait à sa chère tante qu'une affection et une confiance de commande, et qu'elle se servait d'elle pour assurer sa situation à la cour. Adulte, elle renâcle devant l'emprise que prétend exercer sur elle l'incorrigible éducatrice. Ça paraît effectivement plus probable entre nous. Est-ce qu'il y aurait pu avoir encore quelque chose de plus grave ? Vous me permettrez tout de même d'en douter.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
De son vivant, le duc de Bourgogne préparait avec un petit groupe des changements politiques substantiels pour après la mort de son grand-père. Il est possible que les documents qui étaient dans cette cassette aient été gênants de ce point de vue. Saint-Simon, qui avait participé à la rédaction des documents en question, a été terrifié qu'on les découvre. Il écrit « Il y avait tout à parier que j'en serais perdu et chassé pour tout le règne du roi ». Ben voilà une indication très intéressante. Vient le moment où la cassette est portée suivant l'ordre du roi chez Madame de Maintenon. Vous savez que Louis XIV travaille toujours dans l'appartement de Madame de Maintenon. Il ouvre la cassette en compagnie du duc de Beauvilliers, qui se trouve être assez proche de Saint-Simon. Or, le roi décide finalement de ne pas s'attarder sur tout ça et de jeter l'alias aux flammes. Saint-Simon et ses complices ont-ils pu compter sur une bonne étoile ou ont-ils pu compter tout simplement sur cette discrétion naturelle qui, tout le long de son règne, avait conduit Louis XIV à écarter les scandales ? Il aura en tout cas bâclé la tâche, Louis XIV, peut-être avait-il plus qu'une petite idée de ce qu'il pourrait trouver dans la cassette ? En tout cas, il a choisi, comme toujours, il était le grand roi, n'est-ce pas ? Il a choisi la dignité, la bonne réputation. Il a choisi que l'histoire suive tranquillement son cours.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Pierre-Louis Lancel de nous avoir fait revivre cet épisode agité de la fin du règne de Louis XIV. Et voici quelqu'un qui n'est pas agité du tout, c'est Christian Morin. Bonjour Christian.
Vous ne m'avez pas vu hors studio.
Oui, c'est vrai.
Non, l'agitation est de bon aloi. Alors, il y a deux choses qui m'ont plu, parce que ce matin, il y a beaucoup de jeunes, vous savez, avec ce ton arboré aujourd'hui par certains d'entre eux, qui vont dire « Ah, Franck Ferrand, il a parlé des bâtards ce matin. »
Ah oui, c'est vrai. Oui,
donc ça, vous avez une nouvelle clientèle qui est en train de s'ouvrir. Et ensuite, vous parlez de soins, et j'en profite pour dire qu'il y a, dans le cadre de l'Université Paris Cité, dans les locaux de l'ancienne faculté de médecine, à côté de l'Odéon, du carrefour de l'Odéon, il y a un musée à visiter formidable.
Ah oui.
Le musée d'histoire de la médecine, où
fait.
Il y a des outils qui ont servi.
Oh oui, ça fait peur.
Oui, ça fait peur pour l'époque, enfin, c'est plus comme ça maintenant. Mais le musée reste quand même, cependant, très intéressant. Alors faites attention si vous prenez l'ascenseur, il m'est arrivé un problème l'autre jour, c'est que dans l'ascenseur, il y a 8 personnes, 630 kilos. Mm-hmm. Et après, on nous a dit, ah non, c'est 4 personnes, pas plus. Signalez à votre administration que, parce qu'au moment du décollage, nous étions 6 dans l'ascenseur, je n'ai pas pu encore visiter ce musée, nous allons y retourner avec ma femme.
Ah, vous avez été coincé dedans.
Oui, on a coincé pendant une heure. Et quand le technicien est arrivé, il nous dit, bon, merdez de travailler. Je vais lui dire, faites un autre métier.
Vous en êtes à coincer votre femme dans un ascenseur.
Maintenant. Oui, on était 6, hein, quand même.
Ah oui, pardon.
Et alors, on aurait pu apporter du champagne, ça aurait été beaucoup plus sympa. Encore qu'à cette heure-ci, à 9h28, à boire avec modération. Je n'oublie jamais de citer la phrase. Mon cher Franck, cet après-midi, alors là, c'est une promenade en Éthiopie, mais en compagnie d'un personnage un petit peu particulier, Mussolini.
Ah oui.
Mussolini en Éthiopie, et puis bien sûr, demain matin, alors, peut-être un peu de musique demain matin. Je n'en dis pas plus, parce que c'est un sujet très très intéressant que Franck, une fois de plus, abordera en votre bonne compagnie. Et puis vous retrouvez Franck, je le rappelle, chaque jour, ne ratez jamais ce point du jour qui est fort intéressant, à 8h05 avec David Abiker. Ça vous fait quand même un très beau programme.
Oui, n'est-ce pas, hein, on s'occupe.
Un peu chargé. Voilà. Et puis dans quelques temps, alors d'abord la semaine prochaine, jeudi prochain, c'est la salle Gaveau avec Jean-Paul Gasparian,
et Mozart.
Et qui sera là d'ailleurs, en présence
bien
musicale.
Bien sûr, Mozart est toujours là dès qu'on le joue.
Et puis dans quelques temps, j'évoquerai un nouveau rendez-vous télévisuel de Franck Ferrand. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Bonne journée, Franck.
Bonne journée à vous.